France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est le 11e chapitre. Que viva Mexico, Eisenstein et Lecuona au Mexique. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouveau chapitre qui débute dans la superbe ville de Oaxaca, l'une des plus belles du Mexique, à près de 400 km au sud de la capitale. Le mois de janvier 1931, la ville, comme tant d'autres en Amérique latine, célèbre le centenaire de la mort de Simón Bolívar, le Libertador. Les fêtes ont commencé 2 semaines auparavant. Rien ne laisse présager la tragédie qui va se produire. Tout le monde chante et danse. La célèbre valse « Dios nunca muere »« Dieu ne meurt jamais » qui est un peu la mélodie fétiche de la ville est sur toutes les lèvres. Le soleil se meurt dans les montagnes et la lumière agonise. La vie dans sa hâte nous conduit à la mort. Or la vie commence là où nous pensons qu'elle s'achève car Dieu, lui, ne meurt pas. C'est Pedro Infante qui l'interprète ici.
Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir.
Le 14 janvier 1931, il est 20h, lorsqu'un fort tremblement de terre secoue la région. La moitié de la ville de Oaxaca est détruite. Les gens vivent dans les rues, face aux églises et aux édifices publics souvent effondrés. Parmi les victimes, le compositeur Macedonio Alcala, l'auteur de la valse « Dieu ne meurt jamais ». Entre ceux qui sont morts et ceux qui ont fui, la ville a perdu 30% de sa population. C'est une tragédie qui bouleverse tout le Mexique. Un extrait de Esquinas, Les coins de rue, la première œuvre symphonique de Silvestre Revueltas, qu'il a dirigée le 20 novembre 1931 à la tête de l'Orchestre symphonique de Mexico. L'orchestre de l'Université de Guanajuato l'interprétait ici, sous la direction de José Luis Castillo. Deux jours après le sinistre à Oaxaca, le cinéaste russe Sergei Eisenstein, qui vient d'arriver au Mexique, monte à bord d'un avion pour filmer la ville sinistrée. Eisenstein vient des États-Unis où Staline lui a demandé de s'informer des dernières techniques du cinéma parlant. À Los Angeles, un mécène américain, Upton Sinclair, lui a donné les fonds nécessaires pour réaliser au Mexique son premier film indépendant. Le 4 décembre 1930, il prend le train de New York à Los Angeles, puis un autre jusqu'à Mexico, avec son acteur fétiche Alexandrov et son caméraman Édouard Tissé. Eisenstein connaissait le rapport des Mexicains avec la mort, si présente dans les gravures de Posadas et les peintures de Orozco qu'il admirait. À Mexico, il est accueilli par Diego Rivera et Frida Kahlo, qui l'hébergent dans leur maison bleue et vont lui faire découvrir leur pays. Les premières esquisses de scénario du film « Que viva Mexico » sont écrites en avril 1931. Une des séquences débute par un pèlerinage durant lequel des moines pénitents portent des têtes de mort en procession. Dans une autre scène, c'est le mariage d'une Mexicaine à Colima sur la côte Pacifique, au cours duquel les invités dansent la sandunga, une valse traditionnelle de l'état de Oaxaca justement. « Sandunga, ma belle, ne sois pas ingrate envers ce cœur qui t'aime. » L'orchestre d'harmonie du Centre culturel de la communauté indienne Miché de l'État de Oaxaca. La sandunga, c'est un mot indien sapothèque qui veut dire chant profond. Une autre séquence du film d'Eisenstein intitulée Fiesta est dédiée au peintre espagnol Goya. C'est une corrida magnifiquement filmée à laquelle succède une promenade en chaloupe à travers les jardins flottants de Xochimilco. Puis c'est l'épisode le plus tragique et le plus violent, inspiré du tableau d'Orozco, le Magaï, l'agave, au pied duquel gisent deux cadavres. Il se déroule au début du XXe siècle, quand existait encore, dans les campagnes, cette coutume féodale ignoble où le fiancé devait présenter sa future épouse au propriétaire de l'hacienda pour avoir son agrément, et ce dernier pouvait même exercer son droit de cuissage. Et c'est ce qui se passe dans le film. La séquence se termine très cruellement. Les sbires du propriétaire terrien torturent et enterrent vif le jeune fiancé et ses compagnons qui se sont révoltés. Enfin, Eisenstein a filmé le dernier épisode, la soldadera, la femme soldat, durant le défilé de la fête des morts à Mexico.
Anoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. ¡Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios! ¡Sandunga, no seas! Al pasar por tu ventana, me tiraste un limón. El limón me dio en la cara y el zumo en el corazón. ¡Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios! Sandunga, no seas tan mala, mamá de mi corazón. Soñaba dormida, dormida te estabas quieta, pero en llegando al olvido, soñé que estabas despierta. ¡Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios! Sandunga, no seas tan mala, ay, mamá de mi corazón.
Une interprétation inoubliable de la sandunga par la grande Chavela Vargas. Aux États-Unis, Upton Sinclair s'inquiète du retard pris dans le tournage. Il fait surveiller Eisenstein par son beau-frère, qui joue alors un rôle bien trouble, jusqu'à accuser le cinéaste, et je cite, de passer son temps à faire la fête avec une bande d'homosexuels. Ce qui est sûr, c'est qu'Eisenstein était un sacré trublion. Le film de Peter Greenaway, Que viva Eisenstein, sorti en 2015, fait allusion à cette personnalité peu connue du cinéaste. Il raconte notamment le voyage débridé qu'il fait à Guanajuato pour retrouver Frida Kahlo. Il est accompagné de son guide mexicain dont il est tombé amoureux. Mais les choses tournent mal. Le 21 novembre 1931, Staline envoie un câble à Sinclair. Il accuse Eisenstein d'être un déserteur. Sinclair défend le cinéaste. Il assure qu'il veut retourner au pays et promet à Staline de céder les droits du film à l'Union soviétique. Le 27 janvier 1932, Sinclair avertit Eisenstein qu'il ne peut plus continuer à financer son projet. Il lui demande donc d'arrêter le tournage de la dernière séquence. Il l'informe aussi que l'Union soviétique ne veut plus de ce film. Eisenstein est donc forcé de quitter le Mexique et de revenir aux États-Unis. Dans la ville frontière de Nuevo Laredo, les trois Russes attendent de longs jours les visas nécessaires pour entrer à nouveau aux États-Unis. Dans ce paysage à la fois désolé et pathétique de la frontière mexicano-américaine, une frontière que le compositeur Revueltas connaissait bien pour l'avoir franchi si souvent.
Thank you.
Le deuxième mouvement de Esquinas, les coins de rue, de Silvestre Revueltas par l'orchestre de Guanajuato, dirigé par José Luis Castillo. À Nuevo Laredo, les Russes reçoivent bientôt leur visa américain et reprennent le chemin vers New York. Ils s'arrêtent à la Nouvelle-Orléans, où Eisenstein donne une conférence dans une université devant de nombreux intellectuels noirs. À New York, il est bien décidé à profiter au maximum de tout ce que le capitalisme peut lui offrir. Il assiste à un spectacle des Ziegfeld Follies, à un combat de boxe au Madison Square Garden, au fabuleux spectacle du cirque de Barnum & Bailey, et il fréquente les nightclubs de Harlem. Alors qu'il s'apprête à embarquer à New York, les douaniers américains découvrent dans ses malles des dessins érotiques qu'ils saisissent aussitôt pour atteinte aux bonnes mœurs. Le 19 avril 1932, Eisenstein quitte définitivement New York avec ses deux collègues sur le paquebot Europa. Mood Indigo de Duke Ellington, que Eisenstein a sans doute entendu dans ses soirées new-yorkaises. Le voici donc en route pour l'Union soviétique, mais à Moscou, il ne recevra jamais le film promis par Sinclair. Ce dernier a demandé à un producteur de réaliser à Los Angeles le montage des séquences envoyées par Eisenstein. Après la projection à Hollywood le 1er mars 1933, un comité de défense du cinéaste russe s'est aussitôt constitué pour protester contre cette manipulation. Que Viva Mexico a eu une profonde influence sur le cinéma mexicain et a inspiré plus d'un réalisateur. En 1930, avaient eu lieu les premières séances de cinéma parlant dans le pays. Le compositeur Silvestre Revueltas, curieux de découvrir les studios, fait partie d'un orchestre comme violoniste. C'est l'occasion pour lui de s'initier à la production d'un film sonore et de comprendre le rôle que peut y jouer la musique. Composer pour le cinéma le passionnera vraiment.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Premier mouvement du deuxième quatuor de Silvestre Revueltas par le Quarteto Latinoamericano. Au Mexique, une autre catastrophe succède à celle de Oaxaca. Le 1er mars 1931, un incendie réduit en cendres l'ancien théâtre des vice-rois, le Teatro Principal de la capitale, lors d'une représentation de Zarzuela, et il y a plusieurs morts. Nouveau coup dur pour les Mexicains. C'est vers ce pays traumatisé que le compositeur cubain le plus populaire, Ernesto Lecuona, embarque à La Havane le 19 janvier 1931. Il voyage avec sa sœur, la compositrice Ernestina Lecuona, deux sopranos, un ténor et l'orchestre cubain Caribe. C'est son premier voyage au Mexique et il est tout étonné de voir combien il est déjà populaire dans le pays grâce en particulier à la jeune radio XEW, la voix d'Amérique latine au Mexique. Il décide aussitôt que certains de ses spectacles seront donnés au bénéfice des sinistrés de Oaxaca. Parmi ses solistes, le ténor Adolfo Utrera a été très applaudi. Lecuona venait de le rencontrer à New York, où il avait accompagné à quatre mains avec le pianiste Nilo Menéndez lors de l'enregistrement de la célèbre chanson « Aquellos ojos verdes, ses yeux verts ». Nilo Menéndez, amoureux transi de la sœur du ténor, l'avait composé en son hommage. « Ses yeux verts et sereins sont comme un lac aux eaux calmes, des yeux verts que je n'embrasserai jamais. »
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes serenos como un lago en cuyas quietas aguas un día me miré, no saben las tristezas que a mi alma le dejaron, aquellos ojos verdes que nunca besaré. Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que a mi alma le dejaron, aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Como un lago en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Le ténor Adolfo Utrera a été promis à une belle carrière. Hélas, pour des raisons inconnues, à son retour à Manhattan, il met fin à ses jours en décembre de cette même année, à l'âge de 30 ans. À Mexico, les concerts de Lecuona ont commencé le 30 janvier avec un succès immédiat et se sont poursuivies tout le mois de février au magnifique théâtre Esperanza Iris. Lecuona a aussi participé avec ses artistes et des musiciens mexicains à une fête de charros, ces cavaliers de l'élite des propriétaires terriens. La soprano Carmen Burguete, qui avait accompagné Lecuona, avait beaucoup plu au public. Elle interprète ici le chant d'une vendeuse ambulante qui vante de la qualité de ses meringues douces comme le miel. La soprano cubaine Carmina Burguete. Au théâtre Esperanza Iris de Mexico, Lecuona crée le 21 février sa comédie musicale La Tierra de Venus, le pays de Vénus. La publicité précise que la musique a connu un grand succès à Paris, New York et La Havane. Quatre jours plus tard, il cède la place à l'opéra Tosca, représenté en hommage au sinistré de Oaxaca. Enfin, le 22 mars 1931, le Bloque de Obreros Intelectuales de México, la cellule des ouvriers intellectuels qui désignait dans le jargon post-révolutionnaire une association officielle d'écrivains et d'artistes, lui rend hommage dans le parc de Chapultepec, où les artistes cubains se mêlent aux musiciens mexicains. Pendant ce temps au théâtre, sa comédie musicale Le Pays de Vénus fait un grand succès. Lecuona l'avait créé à New York en 1929. Le tableau le plus applaudi, c'est la grotte Siboney, du nom des Indiens Siboney, les premiers habitants de Cuba. C'est dans ce tableau que le fameux Canto Siboney est ovationné tous les soirs. Il va devenir un succès mondial et Lecuona l'a transposé pour le piano, pour ses récitals. À Mexico, le compositeur apprend la mort subite de sa mère et il retourne aussitôt à Cuba.
Thank you.
Ernesto Lecuona interprétait son Canto Siboney. En 1931, l'Orchestre symphonique de Mexico crée les Pueblerinas de Candelario Huízar, Pueblerinas, musique des villages et des campagnes. C'est Silvestre Revueltas, proche du compositeur, qui dirige ce poème symphonique aux côtés d'œuvres de Handel, Haydn, Beethoven, Richard Strauss et Debussy. Après tant d'années de silence, Candelario Huízar se remet à composer. Dans cette œuvre pour orchestre, il semble se souvenir de sa jeunesse, quand il jouait dans les fanfares de sa ville natale, avant d'être enrôlé dans l'orchestre d'un régiment révolutionnaire. Ce sont ces images fugitives qui forment la trame de ces Pueblerinas. Le troisième mouvement de Pueblerinas de Candelario Huízar par l'Orchestre philharmonique de la ville de Mexico dirigé par Fernando Lozano. Dans les années 1930, les orchestres de mariachis sont devenus très populaires dans les villes. Les musiciens revêtent tantôt des costumes qui imitent modestement les riches cavaliers charros ou alors des costumes traditionnels du nord du pays. Ils ont pris l'habitude de se réunir sur les grandes places des faubourgs et surtout sur la place Garibaldi, dans le centre de la capitale. Les orchestres de mariachis participent à des concours de musique folklorique et collaborent au festival de danse traditionnelle organisé par le secrétariat de l'éducation publique. Les mariachis de Marmolejo deviennent très célèbres. Et Marmolejo inclut parfois un chanteur soliste et surtout une trompette. qui se fait très discrète au début, puis devient de plus en plus présente. Les mariachis de Marmolejo ont été les premiers mariachis à accompagner la chanteuse Lucha Reyes, quoique jusqu'au milieu des années 1930, elle chante surtout avec de petits orchestres traditionnels, un piano et quelques cordes. Elle a été la première grande interprète de ce qu'on appelle au Mexique la chanson ranchera, un mot qui nous fait penser au ranch de l'Ouest américain. En réalité, le rancho, c'est une petite propriété agricole mexicaine. Dans sa chanson « Torito Retinto », Lucha Reyes chante la virilité du taureau qui met même en émoi les pouliches du corral. Et la fable est claire. Méfiez-vous des femmes ingrates et séductrices. Fernando González Gortázar nous explique la canción ranchera.
En México, un rancho.
Au Mexique, le rancho, c'est une espèce de propriété rurale où on pratique l'agriculture et l'élevage.
Y allí se cantaba mucho.
On y chantait beaucoup.
Esas canciones que se cantaban eran corridos.
On chantait des corridos.
Había algunos valses.
Quelques valses.
Y la canción ranchera.
Et la chanson ranchera, contrairement à ce que son nom laisse penser, c'est un genre avant tout urbain, qui n'a pas grand-chose à voir avec le rancho. On l'appelait d'abord la chanson de la campagne. Peu à peu, elle est devenue la chanson ranchera. Ce qui les différencie toutes les deux, c'est vraiment l'état d'esprit qu'elles expriment. La chanson mexicaine, à part quelques exceptions, est une chanson mélancolique, intime, discrète. Tout le contraire de ce qu'est devenue la chanson ranchera, qui est retentissante, exhibitionniste, passionnelle, machiste, misogyne. Et je pense que cette évolution de l'intimisme à l'exhibitionnisme, on le doit beaucoup au cinéma. Beaucoup.
Muchísimo. ojera de un perro, ni en el llanto de mujer. Torito, retinto.
El mariachi introdujo.
Les mariachis ont introduit la trompette pour avoir une sonorité plus grande. Il ne s'agissait plus d'une musique qu'on chantait dans l'intimité, mais plutôt d'un spectacle, d'ailleurs filmé en général. C'est ce qui s'est passé avec cet artiste remarquable, ce chanteur merveilleux, spontané, presque sauvage, Andrés Huesca, né à Veracruz et imprégné de la musique de la région où l'instrument de basse, c'est la harpe. Ce sont des petites harpes dont on joue assis. Mais une fois arrivé à Mexico, il a joué pour le cinéma. Il a changé sa harpe d'origine pour une harpe de l'état de Michoacán, qui est très grande, que l'on joue debout et qui a une sonorité plus grande et surtout que l'on voit mieux à l'écran. Ainsi, la musique s'est développée avec ces critères. Il fallait du spectacle et du son.
Este son que está empezando, lo vamos a dedicar, lo vamos a dedicar. Este son que está empezando, se los diremos cantando, hoy mismo lo han de escuchar, hoy mismo lo han de escuchar, se los diremos cantando.
Es para mi Veracruz, tierra alegre tropical, donde vi la primer luz y me enseñé a cantar. Tierra bonita y preciosa en donde la bamba aprendí yo a bailar, junto con el agualurco también el jarabe son tradicional.
Tierra bonita y preciosa en donde la bamba aprendí yo a bailar, junto con el agualurco también el jarabe son tradicional.
Veracruz,
tierra sensual,
Veracruz,
tan tropical,
Veracruz,
Veracruz, mi Veracruz. De hombres nobles y sinceros, qué bonita es esta tierra, donde también las mujeres en el corazón entero al hombre que las prefiere.
Ay, qué bonito es cantar por las orillas del mar y escuchar con emoción la tonada del buzón. Como el del Chiquisiri y el Torito Jarocho, que alegres también. Y él va a la cupa a bailarlo y luego acabamos con el cascabel.
Como el del Chiquisiri y el Torito Jarocho, que alegres también. Y él va a la cupa a bailarlo y luego acabamos con el cascabel.
Veracruz,
tierra sensual,
Veracruz,
tan tropical,
Veracruz,
Veracruz, mi Veracruz. Es esta tierra, de hombres nobles y sinceros, de hombres nobles y sinceros, qué bonita es esta tierra, donde también las mujeres dan el corazón entero al hombre que las prefiere.
Ay, qué bonito es cantar por las orillas del mar y escuchar con emoción la tonada de algún son. Como el de Chiquisiri y el Torito Jarocho, que alegres también. Y él va a la cupa a bailarlo y luego acabamos con el cascabel.
Como el de Chiquisiri y el Torito Jarocho, que alegres también. Y él va a la cupa a bailarlo y luego acabamos con el cascabel.
Veracruz,
tierra sensual,
Veracruz,
tan tropical,
Veracruz,
Veracruz,
mi Veracruz.
C'est avec cette musique de Veracruz, interprétée par Andrés Huesca et son ensemble, qu'on se dit au revoir. Jusqu'au prochain épisode de Carrefour des Amériques. L'émission a été réalisée par Béatrice Trichet, à la prise de son Olivier Dupré. Une émission qu'on peut écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.